Sortie de boîte, Cédric Adrovert.
J'ai rencontré notre invité pour la première fois l'année passée, c'était à Baselworld. Je réalisais un sujet sur la soirée neuchâteloise et j'ai demandé aux organisateurs s'il y avait à cette soirée une femme dirigeante. Branle-bas de combat, tout le monde s'est mis à chercher, on ne trouvait pas jusqu'à ce qu'elle arrive. Elle était peut-être bien la seule à cette soirée à être une femme dirigeante. Plus récemment, je suis retourné la voir dans son entreprise à Saint-Blaise. La direction est à l'entrée, je patiente un peu, une séance urgente s'est greffée à l'agenda. J'en profite pour visiter l'entreprise, puis on discute. Notre invité, vous allez l'entendre, a un très bel accent. Elle est originaire de Pologne, elle a appris le russe à 9 ans, le français à 14 ans. Pendant ses loisirs, elle écrivait des poèmes dans les deux langues. Ça impressionne un peu, comme son dynamisme, complètement engagé dans l'entreprise qu'elle a cofondée avec son mari. Elle a d'ailleurs reçu en 2008 le prix de la femme entrepreneur de l'année. Et son optimisme, il est aussi là. Comme elle le dit, au pire, si rien ne marche, je fais un super pain. On l'a pas invité pour parler de boulangerie ce soir, mais bien d'horlogerie. Bonsoir Eva Lederer.
Bonsoir Monsieur Adrovera. Merci pour cette opportunité, Madonna, de participer à cette émission.
C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Vous êtes la cofondatrice de MHM à Saint-Blaise, manufacture de haute horlogerie et micromécanique. On va parler de cette société, de son activité. Avant ça, un mot rapidement sur votre parcours, parce qu'il sort de l'ordinaire. Vous avez grandi en Pologne. Vous vouliez faire quoi comme métier d'ailleurs quand vous étiez petite?
Ah, je voulais être médecin.
C'est vrai?
Ah, mais jusqu'à présent, maintenant, même maintenant.
Ah, vous voulez
c'est
toujours
mon
être
métier
médecin?
De rêve, oui.
On l'a dit en introduction, hein, vous avez appris le russe à 9 ans, le ouais. français à 14 ans, ouais. vous écriviez des poèmes, l'envie de voyager, elle était déjà là à l'époque?
Oh, dans ma chambre, il y avait plein de cartes de tout le pays, du monde entier, cartes du monde entier. Je voyage avec mon petit doigt et ça restait. Ça restait. Aujourd'hui, dans la chambre de mes enfants, il y a la même chose. On voyage et on fait nos rêves. C'est la fantaisie qui est très forte dans ma tête.
Sur la carte, dans votre chambre, il y avait déjà un point sur la Suisse?
Il y avait la Suisse et le Canada. Effectivement, il y a la Suisse et je savais, quand j'étais petite, que je vais conduire la Volvo et je la conduis. Et c'est ma voiture de rêve. C'est non explicable, mais c'est comme ça.
Il y avait un climat particulier dans votre pays à cette époque. Hein. Toutes les entreprises se privatisaient. Quels souvenirs vous en gardez, vous, aujourd'hui?
Toujours de belles. Enfant, c'est toujours de belles souvenirs. Mais quand je faisais mes études, visées sur l'économie, c'était vraiment l'époque des transformations. Et j'en profitais parce que j'apprenais déjà tout ce qui est dynamisme de changement, c'est ne pas lâcher le bras, donner vraiment toute la force. On n'a qu'à gagner, on n'a rien à perdre. Et dans cet esprit, je pense qu'aujourd'hui, ça reste et ça aide énormément au quotidien.
Alors, on va sauter plusieurs étapes. Vous arrivez en Suisse, à Bâle, à Baselworld. Vous faites une rencontre qui va changer votre vie.
Ah, mais oui.
Vous nous racontez?
Non, vous le savez.
Oui, quand même.
On peut croire, on peut pas croire, mais je l'ai vu, ce monsieur Lederer, je l'ai vu, c'est un coup de foudre, et c'est effectivement, et apparemment de tous côtés, lui il a tellement dit la même chose, mais après 10 ans seulement, et ça restait, mais hors de cet côté personnel, coup de foudre, l'amour, un grand amour, ça restait entre nous toujours une envie de faire quelque chose ensemble, d'échanger, de faire les choses à notre manière. Un peu esprit de Verseau, pour dire ne pas lier aux convenances, rester pierre sur terre, mais quand même la tête dans le nuage, vision très très loin, au-delà de la situation d'aujourd'hui, au-delà des crises, on n'en parle même pas, parce que ça sera toujours, ça se répète.
De nombreux projets, donc votre rencontre à Baselworld avec Bernard Lederer.
Oui. En 99, 1er mai 99, donc c'est la journée de travail, donc ça...
Et bientôt 17 ans, plus de 17 ans plus tard, vous travaillez encore ensemble.
Ouais.
Beaucoup de gens déconseillent de travailler en couple, de mélanger le professionnel et le personnel. C'est quoi le secret pour y arriver?
C'est respecter, ne pas devenir une entité unique, rester toujours deux, soigner nos identités, nos individus, et s'écouter, et si à moindre, pas dispute, mais écart dans nos visions, il faut en parler. Ça, c'est un grand travail, c'est un compromis, c'est un travail quotidien, mais c'est très, très stimulant et nous avons cette je dis admiration l'un pour l'autre parce qu'il y a un respect l'un pour l'autre. Mais c'est un travail à faire.
Et avec le respect au centre, c'est essentiel. Oui. On va parler maintenant un petit peu des projets. On va parler de MHM. Mais à la toute base, il y avait aussi une marque de montres, Blue, comme Bernard Lederer Univers. C'était quoi le concept de cette marque à l'époque?
Faire des montres qui sortent, qui nous reflètent, qui donnent envie, qui n'expliquent pas le temps, qui amènent une poésie dans la vie, mais de l'autre côté, qui sont absolument bien faites, sans aucun problème technique. Donc c'est un rêve, on peut dire un bon compromis entre un horloger passionné, fidèle aux principes, donc c'est mon mari, et une vision au-delà de nécessité de lire le temps, de dire le temps précisément. Donc,
ça, c'est vous ?
Non, nous deux. Mais j'étais invitée dès le premier moment par mon mari dans la création. C'est ça qui m'a vraiment donné la place dans son univers, pour que je puisse donner mon avis, exprimer, dessiner les cadrans, vivre cette aventure.
Et on l'a dit, hein, vous avez aussi un côté artiste, vous écriviez des poèmes. Ce côté artiste, aujourd'hui, vous arrivez encore à l'exprimer.
Oui, c'est mon jardin secret, je le fais en cachette, mais je le fais.
Alors si c'est un jardin secret, on n'a pas cherché à en savoir plus, c'est vraiment resté sur l'horlogerie. Cette marque, aujourd'hui, le service après-vente continue, mais elle n'existe plus en soi. C'est MHM qui a pris le relais, la manufacture de haute horlogerie et micromécanique. Pourquoi avoir fait cette transition?
C'est venu naturellement. BLU a été créé en 2000, nous sommes déjà en 2017, donc ça sera bizarre de vouloir continuer la même chose qu'on a fait en 2000. Donc c'est une conséquence de tout le développement de nouvelles technologies, de nouvelles recherches, des brevets que mon mari a déposés entre-temps. Et c'est une réflexion où sont nos points vraiment forts, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui coince dans aujourd'hui, l'horlogerie d'aujourd'hui. Et comme nous avons trouvé la solution pour notre marque, pour BLU, de sortir toujours le projet au délai réel, court, si on peut faire une comparaison avec d'autres délais dont on parle dans l'horlogerie, et nous avons toujours avoir eu le projet fiable, on se dit, mais pourquoi pas offrir ce que nous avons offert à l'époque à Blue aux autres. Et ça marche. Parce qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qui manque. Enlever le souci des multi-sous-traitances et de capter, de gérer tout d'une manière responsable, comme pour nous-mêmes, mais pour les autres.
Donc si on cherche un petit peu à résumer, vous aviez une marque, pour vous c'est une évolution, pas un changement, vous avez créé une manufacture et aujourd'hui en fait, vous, pour d'autres marques de montres, vous concentrez et essayez de résoudre tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, c'est ça, vous êtes un sous-traitant aujourd'hui.
Et nous sommes plutôt des partenaires. Sous-traitant, j'aime pas ce mot, parce que sous-traitant, c'est très particulier, c'est juste pour une tâche, c'est très pointu. Donc on a plein de sous-traitances dans les domaines spécifiques. Par contre, nous considérons comme une pôle de compétences qui offre des services complets, des concepts à la réalisation. Donc il n'y a rien entre-temps qui doit être réalisé par quelqu'un d'autre, qui peut être mécontent de nos services. Non, nous captons la totalité et nous amenons notre plus, notre expertise, et nous osons à parler avec les clients comme avec des partenaires en apportant notre vision, notre expérience, en posant juste les questions. Pourquoi ?
Et en contrôlant la chaîne du début à la fin,
en fait.
C'est ça le concept. On va se rendre dans vos locaux. Hein. Joël Picromain est venu vous rendre visite. Les 20 collaborateurs chez vous travaillent dans des locaux de plein pied, les locaux vitrés aussi, pour faciliter la communication entre les différents secteurs. On y reviendra. On va commencer par visiter l'espace dédié au roulage. On rencontre d'abord Lionel, le responsable du roulage.
Sortie de boîte.
Donc en
quelques mots, on vient écrouillir la matière sur les pivots et les portées pour les rendre plus lisses, moins rugueuses, pour que dans le mouvement, elles tournent sans frottement et avec une précision, de façon à ce qu'il n'y ait pas de vibration dans le mouvement. On a des courroies qui entraînent les meules. Ces courroies donc, font tourner les meules et vont lancer le cycle. La machine va tourner, elle va entraîner la pièce.
Elle est où la pièce là?
Ah, la pièce, je vais vous la poser.
Donc là, cette pièce, c'est un axe de balancier, d'accord? C'est minuscule, ça fait quoi? Quelques millimètres de diamètre?
7 centimes de millimètre.
Il faut une grande machine comme ça pour que cette toute petite pièce soit parfaite?
Tout à fait, oui. C'est vraiment une super finition qu'on fait dessus là. Donc la bascule va amener la pièce sous les meules, la pièce va tourner. Et les meules vont faire écraser la matière sur les pivots et sur les portées. Voilà, ça dure quelques secondes et puis c'est fini.
Ça, c'est un prototype encore. On a commencé mise au point, nos nouveaux prototypes, l'assemblage, voilà, tout ce que mise au point, nos nouveaux techniques. Et puis ça, c'est une autre, elle s'appelle tourbillon avec des remontoirs d'égalité. Ça prend pas mal de temps parce qu'il y en a des certaines précisions et puis des certains points techniques assez intéressants. Ici, on a pratiqué après la, commencé à faire des prototypes après la construction des pièces. Bien sûr, ça commence sur papier. Et puis, on commence à faire la remise en marche en blanc, sans décoration, sans rien du tout. Et puis, quand c'est les pièces, ça marche très bien. À ce moment-là, on finit les pièces à la main. Ça va être bien prêt pour livrer, quoi.
Et on poursuit la visite. Nous voici dans un espace dédié aux machines. On y retrouve votre mari, Bernard Lederer.
On a toutes sortes de machines. On a les machines qui font des pièces très très petites. C'est une Citizen R07, ça c'est la machine la plus petite. Et comme machine la plus grande, on a une machine où on peut travailler jusqu'à 52 mm de diamètre en barre. Et comme ça, on couvre toute la gamme de produits qui sont dans un mouvement d'une montre. On ne travaille pas l'habillage. Nous, on se concentre purement sur le mouvement. Il y a la discussion toujours si il faut faire une pièce brute et tailler après. Et là, je suis 100% contre parce qu'il vous faut prendre une deuxième fois dans la main. Alors, il y a automatiquement une petite tolérance à accepter qui, moi, je n'accepte pas. Je suis peut-être un petit peu trop maniaque, mais là, je suis très allemand. Ça doit fonctionner à 100%. C'est là la réputation qui est en jeu.
Sortie de boîte.
De retour dans notre studio de marin avec Eva Lederer, cofondatrice de MHM. On vient d'entendre votre mari, cette obsession d'éviter le moindre défaut. Aujourd'hui, on peut encore se permettre un tel zèle dans la qualité?
Non, ça doit fonctionner, il n'y a pas d'autre... C'est ça ou bien rien. Parce que finalement, notre client, ce n'est pas le client qui est en face de nous, qui réalise le projet. Le client final, c'est un acheteur. Donc, nous nous mettons toujours ensemble avec le client, soit grand, soit petit, la taille pose... Il n'y a pas de différence pour nous.
On ne peut pas donner de nom pour des raisons de confidentialité, mais c'est des marques de montres?
C'est toujours des marques de montres qui ont besoin de nous parce que nous sommes spécialisés dans une horlogerie. Et nous trouvons... Notre rôle, c'est de trouver des concepts, des réponses adaptées aux questions. Donc notre force, c'est l'écoute. Vu que nous maîtrisons, nous, je me mets vraiment à la... comme je représente tous les corps métiers qui sont réunis, on a 20 personnes, mais nous avons cette grande capacité d'écouter et utiliser notre maîtrise, notre expérience pour parler des sujets, des problèmes, trouver des solutions toujours adaptées, aussi au niveau timing, au niveau de prix, les critères que les clients nous amènent peuvent être différents. Donc, il n'y a pas de solution directement avant des rencontres. Les solutions sont seulement pendant les premiers rendez-vous qui sont les plus importants.
Donc, en gros, un client vient vous voir, souvent avec un problème, vous les accompagnez, vous cherchez des solutions. Toute cette étape, ça prend combien de temps à peu près? Ça dépend des clients, j'imagine.
Ça dépend des clients. Premier rendez-vous, normalement, la visite... C'est Je pense qu'il faut compter une heure et demie pour vraiment faire donner première impression, parler, mais...
Sur la totalité, après, c'est des semaines, des mois, des années?
Ah oui, après, un beau projet, c'est une question des mois, même des années. Mm-hmm. Mais ce qui est important, le client toujours est dans le projet. Il est tenu au courant, updated, donc il est à jour, il nous accompagne, il est invité, il est contacté par nos chefs de production, chefs de projet. Il est vraiment, il suit la naissance de son projet.
Alors vos clients sont des marques, on l'a dit, on sait qu'aujourd'hui il y a une crise qui touche l'horlogerie. On imagine que vu que vos clients sont des marques, que les marques sont touchées par cette crise, vous êtes aussi touché par la crise qui touche l'horlogerie aujourd'hui.
Si je dis autrement, ça sera pas, c'est pas correct. Bien sûr que nous ressentons une certaine crise, ralentissement, mais ceux qui visent leur existence à long terme, ceux qui pensent vraiment sérieusement à leurs entreprises, leurs démarches pour le projet authentique, il y a toujours la suite. Et nous sommes là pour donner la suite aux nouveaux projets qui sont peut-être abandonnés, n'est pas finis, qui sont peut-être pas encore conçus, qui les clients qui doivent avoir une idée, qu'est-ce que je présente comme la suite. Nous sommes là pour nourrir les idées, pour donner un coup de main, soit pour réaliser quelque chose qu'il sort, pour dire c'est ça maintenant qu'on va présenter, pour sortir. Il faut vraiment, dans le moment des crises, il faut être le plus dynamique. Pas baisser les bras, surtout pas ça.
Donc vous, dans cette crise, vous y voyez aussi une opportunité?
Ah oui.
Une autre particularité chez vous, c'est la taille. On l'a entendu un peu dans le reportage, mais tous les employés sont proches les uns des autres. Vous y tenez, pour quelle raison?
C'est la proximité qui fait la force. Notre administration, elle est allégère. Elle est très légère, c'est linéaire. Il y a une proximité entre la direction, donc nous deux avec mon mari, et cette proximité avec tout le personnel. Interactivité entre les départements, la responsabilité pour le projet, donc envie ou bien nécessité de parler de chef de projet avec le mécanicien qui intervient déjà à une certaine phase de construction pour donner leurs opinions, tout pour raccourcir, optimiser et faire avec la tête le projet, pour ne pas se réveiller après le coup pour dire « Ah, si je savais, si je te parlais, ça serait autrement. » Non.
Je cherchais à être le plus réactif possible.
Oui, et ça donne aussi... Côté positif, ça redynamise l'équipe, ça donne confiance. Le mécanicien voit le projet naître, l'avancement du projet. Donc,
ça motive.
Ça motive énormément.
Ça, c'est du côté de l'interne. Maintenant, il faut aussi se faire connaître à l'externe. Comment vous y prenez?
J'aimerais bien crier tous les jours dans la matinée depuis ma cuisine. Non, mais... beaucoup de bouche à l'oreille,
oui.
C'est sûr. On ne peut pas négliger une réputation de mon mari. Depuis 40 ans, il est sur le marché. MHM, bien sûr, on ne peut pas dire pour quel client on travaille, on ne peut pas vraiment crier, on est plutôt discret.
Mais les clients parlent entre eux?
Oui. Mais nous avons un réseau des clients, nous avons la capacité, mais bien sûr, notre but maintenant, c'est de plus en plus être actif, communiquer comme aujourd'hui. J'espère que tout le monde, pendant SIHH, nous écoute maintenant. ce client, on va trouver la solution, on va trouver le chemin de communiquer avec eux. Ça, je ne me fais pas de soucis. Et il y a grand intérêt aussi de médias, de journalistes qui nous accompagnent toujours pour dire quoi de neuf chez vous, les LDRR. Donc, cette curiosité aussi existe.
Pour les marques de montres, donc, il y a aussi les salons. Pour se faire connaître, vous avez évoqué le SIHH avant, le Salon international de la haute horlogerie. Il se déroule effectivement en ce moment à Genève. Marie-Lise Saillard s'y est rendue en chemin. Elle s'est perdue dans un monde virtuel.
Pile à l'heure.
Au Salon international de la haute horlogerie, il y a des montres, bien sûr, il y a du champagne et des petits fours, il y a des grandes demoiselles toutes minces, très bien coiffées, qui portent de longues robes et qui sourient toute la journée, il y a des magazines et des livres. Et cette année, la Fondation de la haute horlogerie qui organise l'événement a prévu un coin ludique. En mettant un casque de réalité virtuelle, les visiteurs peuvent tester leur débrouillardise en voyageant dans le temps. Trois univers de transport leur tendent les bras, le ferroviaire, le maritime et l'aérien. À chaque fois, il faut s'orienter ou régler sa vitesse en se servant d'instruments de l'époque. Explications et démonstrations.
Voilà, donc c'est la chronographe bracelet flyback de Breguet.
Si on se décale un petit peu sur la droite, on arrive cette fois sur le rail. Donc là, on est avec une montre de poche.
Voilà, de chemin de fer, donc, de chez Universal à Genève, qui date donc du début du XXe siècle.
Et la troisième, côté maritime, cette fois pour la navigation. Ça, c'est un chronomètre de marine.
Tout à fait, Henriette, qui vient de Liverpool et qui date d'environ du 19e siècle.
Donc l'endroit en question, c'est juste à côté, c'est une sorte de salle ouverte mais vide. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Alors là, justement, la personne, elle va mettre donc le casque, ce casque est visuel et aussi auditif pour avoir les sons de la vidéo. Et justement, en fait, c'est à ce moment-là qu'elle va rentrer dans ce monde trois dimensions et qu'elle va voir justement tous les effets. Donc, c'est à la personne de choisir soit l'avion, soit le bateau, soit le train. Et elle va rentrer justement dans cet univers. Son voyage commence à ce moment-là. Pendant, en fait, toute la vidéo, il y a une voix off qui nous parle et elle nous dit justement, ah ben, j'ai, admettons, si on prend l'exemple du bateau, ah, j'ai besoin de voir le soleil. Donc, il y a plein d'instruments, en fait, qui sont sur le bateau. Par exemple, une carte où il faut dessiner justement quelle est ma longitude ou des choses comme ça. Et donc, en fait, ça permet à la personne d'avoir justement ce mouvement et de pouvoir un peu suivre les choses qu'elle a à faire.
Alors, je vais justement me diriger vers quelqu'un qui a fait l'expérience. Comment ça s'est passé ?
Alors, je sors de l'expérience maritime où j'ai pu tester l'utilisation du boîtier marine. Et en fait, c'est incroyable parce qu'on est vraiment plongé dans un autre univers d'il y a 300 ans sur un bateau en pleine mer.
Est-ce qu'on a le mal de mer ?
On a un peu le mal de mer. On a envie de s'appuyer sur le pont du bateau et en fait, il n'y a rien du tout. Alors, c'est assez prenant, en fait, comme expérience.
Et sachez que si vous avez envie, vous aussi, de vivre cette expérience, c'est possible, à condition d'être disponible demain. Pour la première fois cette année, le SIHH, le Salon international de la haute horlogerie, traditionnellement réservé aux professionnels, s'ouvre au public le temps d'une journée. Encore faut-il s'inscrire par Internet et être prêt à débourser 70 francs pour entrer.
Pile à l'heure.
Pile à l'heure de Marie-Lise Saillard que vous pouvez réécouter sur notre site internet de Genève. On revient à Marin, où notre invitée ce soir est Eva Lederer, cofondatrice de MHM. Pour terminer cette émission, un mot peut-être sur l'avenir. Il reste de la place pour s'agrandir dans vos locaux. Vous allez en faire quoi? Comment vous voyez l'avenir de MHM?
Nous allons grandir, c'est sûr. Nous avons déjà les prévisions qui confirment ça. L'avenir des MHM, c'est servir nos clients, d'agrandir bien sûr le carnet de clients existant. Nous avons déjà, ça c'est le défi, ça c'est important. Conduire en parallèle nos projets qui sont visés à intéresser le nouveau client, soit existant, soit le nouveau client. Mais il faut aboutir un projet pour que ça soit vraiment intéressant. Ce sont des projets qui sont très très avancés, que nous poussons cette année. Je pense que deux nouveaux calibres où intérêt déjà nous voyons, parce que imaginez que les projets que nous touchons sont projets que nous estimons qui peuvent intéresser le marché. C'est ça le but. Ne pas faire pour faire, juste être aussi guidé et faire... faire de sorte que ça soit abouti.
De répondre à un besoin.
Oui. Et parfait. Aussi, nous estimons que 2017, c'est une année de croissance pour nous. Et je vous invite, peut-être pour la fin de l'année 2017, à faire le bilan.
Parfait. Ben, écoutez, on reparlera certainement ensemble. En tout cas, merci d'avoir été notre invité. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir. On vous souhaite une très bonne soirée, Valé Derrière. Et cette émission, vous pouvez la réécouter en intégralité sur notre site internet. La semaine prochaine, Sortie de boîte se rend à la source de l'entrepreneuriat avec Créapol, une entreprise située à Delémont, dans le Jura. Elle est spécialisée dans la création et l'accompagnement de jeunes entreprises innovantes. Le directeur Daniel Rueg sera notre invité. Daniel Rueg, avec lequel nous essaierons de déceler les qualités qu'il faut pour qu'une idée se transforme en véritable entreprise. Excellente soirée à tous.